Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait, oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et bonsoir chers auditeurs, chères auditrices, chers lecteurs, chères lectrices, bienvenue dans votre émission littéraire Un livre sur le zinc en partenariat avec la médiathèque départementale de Lozère et la librairie La Livrerie. Alors ce soir nous allons vous faire frissonner, non pas de froid mais de peur, en écho au concours de La Livrerie sur ce thème. Nous avons sélectionné les livres que vous lecteurs avez choisi de mettre en avant mais aussi ceux que nos chroniqueuses ont choisi de présenter. Alors qu'est-ce qui fait le plus peur, une sorcière ou une infirmière? Psychopathe, un clown tueur ou un commandant sociopathe, des démons ou des humains transformés en cannibales pour survivre. Bouh. On va tout savoir sur les livres qui font peur. Je l'ai bien fait, hein.
T'as vu, j'ai eu peur.
Pauline trémule de peur d'ailleurs.
Salut, je suis terrifiée. Salut tout le monde.
Voilà, Elodie qui est comme David Croquette, elle n'a peur de rien.
Jamais.
Jamais. Alors par qui va-t-on commencer? Bien entendu par le maître du frisson qui est souvent revenu dans les choix des lecteurs et lectrices du concours de Valérie qui va nous rejoindre dans quelques instants. Et ce maître du frisson, c'est bien sûr monsieur Stephen King. Alors Pauline, un livre choisi par Juliette, mais qui toi aussi t'a fait peur, c'est Misery. Misery, roman de Stephen King, publié en 1987. Et d'ailleurs, s'en suivra un film terrifiant avec l'excellente Kathy Bates, qui remporte un Oscar pour son interprétation d'Annie Wilkes, infirmière psychopathe, Pauline.
Eh oui, Annie Wilkes, infirmière psychopathe. Mais quand on la voit, on se dit, quand on la rencontre dans Misery, on se dit qu'elle est peut-être un peu bébête. Elle aime les livres de Paul Sheldon, son auteur préféré, qui écrit la saga Misery, une jeune fille qui vit des histoires d'amour au 19e, enfin, un harlequin des années 80. Bref, on a cette image de Annie Wilkes, juste à cause de ses lectures, on se dit, bon, elle est un peu bébête. Mais déjà, elle va ramasser Paul Sheldon, donc son auteur favori, l'auteur de Misery, au bord de la route après qu'il a eu un accident. Et elle va le ramener chez elle. Drôle d'idée, dira-t-on. Et elle va le séquestrer. Pourquoi elle va le séquestrer? Parce que Paul Sheldon a décidé, dans le dernier tome de Misery, de tuer son héroïne Misery. Et elle ne supporte pas ça. Elle veut qu'il écrive la suite. Donc il est là avec ses deux jambes cassées, elle le bourre de médicaments, elle joue la petite infirmière gentille, mais elle n'est pas du tout gentille, elle est absolument cinglée. Et en fait, au début, on va croire qu'elle est un peu bébête. Donc il va essayer de la manipuler, essayer de l'attendrir, etc. Mais elle va pas se laisser du tout piéger parce que malheureusement, elle n'est pas bête. Donc elle va voir les pièges que Paul Sheldon lui tend et elle va rentrer dans des colères incroyables et elle va avoir des actes absolument atroces, inimaginables, c'est-à-dire que Paul Sheldon il est dans son lit, il a les deux jambes cassées, elle attend qu'il se rétablisse un peu pour le relancer dans l'écriture de Misery. Et puis, il va essayer de la piéger un peu. Elle ne va pas du tout apprécier. Et d'un coup, elle va rentrer dans une rage folle et lui exploser les deux genoux, par exemple. D'un coup, comme ça. Et du coup, à partir de ce moment-là, dès que Annie Wilkes va rentrer dans la chambre de Paul Sheldon, donc c'est presque un huis clos, hein, ce bouquin, avec seulement deux personnages.
Ça coûte pas cher en film, c'est ça qui est bien.
Ah bah c'est sûr, ouais, mais c'est complètement dingue parce que réussir à écrire 400 pages haletantes, parce que c'est ça, dès qu'elle passe la porte de sa chambre, on est sous tension. Alors c'est une certaine définition de la peur, c'est-à-dire que j'ai pas été terrifiée, j'ai pas regardé sous mon lit avant d'aller me coucher, j'étais pas attentive au bruit de ma maison, mais par contre, à chaque fois qu'elle est là, je retenais mon souffle. Est-ce qu'elle est de bonne humeur? Est-ce que ça va bien se passer?
Et rappelle-nous, au niveau de la narration, qui raconte l'histoire?
C'est lui.
C'est Paul.
C'est Paul
Donc
Sheldon.
On est dans sa peau à lui.
On est dans sa peau et même dans ses rêves, parce que évidemment, elle le bourre de médicaments pour essayer d'abord de le faire survivre, parce que l'accident qu'il a eu, c'était quand même quelque chose d'assez grave. Il a les jambes en zigzag, hein, c'est la catastrophe. Donc déjà, elle tient à le faire survivre. Donc il y a des moments un peu de délire, etc. Et puis bon, il comprend pas trop ce qui lui arrive. Enfin, c'est inimaginable de se dire bon, elle me séquestre pour que j'écrive la suite de Misery. Ça lui vient pas du tout à l'idée. Donc et à la fois, elle va faire naître chez Paul Sheldon le meilleur Misery qu'il aura peut-être jamais écrit, qui est une série complètement à chier. Il n'est pas du tout fier d'avoir écrit Misery, c'est juste son fonds de commerce. Ça lui permet d'écrire d'autres livres dont il est fier de la qualité. Mais là, sous cette pression, sous le joug de Annie Wilkes, là, il va réussir à écrire un Misery, peut-être...
Il va se surpasser, quoi.
Oui, il va être obligé de se surpasser. Mais ce qui est incroyable, je trouve, dans ce bouquin, c'est comme Annie Wilkes, dans sa folie, est hyper cohérente. Et t'y crois totalement. Tu te dis, mais c'est sûr, Stephen King, il l'a rencontré, Annie Wilkes. Elle l'a enfermée dans une pièce, elle lui a pété les genoux, elle lui a fait d'autres horreurs. Alors, au début, ça commence beaucoup plus soft. Hein. Au début, elle lui fait boire de l'eau savonneuse avec laquelle elle a nettoyé un mur. Voilà, c'est des petits... Elle le laisse pendant 50, 60 heures tout seul dans sa chambre.
Des violences psychologiques.
Voilà, qui le mettent. En fait, il est absolument terrifié tout le temps. Et t'as l'impression d'avoir un enfant en face de toi qui a peur de la méchante dame qui va le punir. Enfin, c'est extrêmement bien fait, extrêmement bien écrit. Et elle est, Annie Wilkes, et j'avoue que je peux pas m'empêcher parce que ceux qui ont vu le film, elle est hyper bien incarnée, je pense, par Kathy Bates. Elle correspond totalement à... Ou alors, parce que je suis influencée, mais en tout cas, ça colle totalement. C'est-à-dire qu'elle a cette rondeur qui fait un peu jolie femme, jolie infirmière, qui va être douillette, qui va être...
Est-ce que tu l'as lu avant ou après le film?
Je ne saurais pas te dire. Je l'ai relu là pour l'émission, mais je l'avais déjà lu. Et j'ai vu le film. Dans quel ordre? Je suis incapable de le savoir.
Ouais. Tu me disais en off que c'est quand même différent entre le film
oui.
Et,
oui,
et le
oui,
livre.
Oui.
Moi, j'ai plus de souvenirs non plus. Je me rappelle un peu du film.
Alors, la violence est beaucoup plus importante dans le livre. Et la richesse du livre, c'est... Alors, on est dans le thème peut-être de la dernière émission, mais c'est le livre dans le livre. C'est-à-dire que là, on a l'histoire de Misery. On a le livre écrit par Paul Sheldon, qui est un petit plus par rapport au film, évidemment.
Ouais. Et oui, excellent film, excellent livre. Ouais donc là, alors pour tous ces films, pour tous ces livres, c'est souvent pour les adultes, on va avoir des livres d'enfants. Ça, c'est adulte ou adolescent, on peut commencer au lycée?
Oui, je pense au lycée,
quand,
oui.
Quand
ça...
on se faire peur?
Ah bon?
Non, elle n'est pas d'accord.
Moi, j'aurais attendu un peu quand même.
Ah ouais.
Enfin, moi, le livre que je présente après, je l'ai lu à l'adolescence. J'aurais dû m'abstenir.
Ah, d'accord.
Il m'a traumatisée pendant des années.
Alors, c'est sûr que ça peut marquer l'esprit. Mais je pense qu'on a la maturité. Il n'y a pas de... J'allais dire, pas de violence gratuite. Bien sûr que si, tout ce qu'elle fait, il y a un côté gratuit. Mais je veux dire, il n'y a
pas...
C'est pas
gore.
Voilà, c'est pas... Il n'y a pas... C'est pas mauvais. Enfin, non, je m'exprime extrêmement mal.
Complètement.
Oui, mais... Si, pour moi, c'est un public fin de lycée, première terminale, ça passe crème.
Ok. Merci. Et oui, donc, il a eu un prix, ce livre. Alors, Stephen King, il n'a pas toujours été aimé de la critique parce qu'il était trop populaire. Il n'a pas eu les prix qu'il méritait. Et c'est vrai que pour ce film, un Oscar pour l'actrice, c'est pas rien. Stephen King, d'ailleurs, a songé d'abord à publier ce roman sous le nom de plume qu'il avait déjà utilisé, qui était Richard Bachman, ou Bachman, je ne sais pas comment ça se dit, mais le public ayant découvert ces deux personnages, que ces deux personnages ne faisaient qu'une Dune. Du coup, il s'est résolu à signer ce livre sous son propre nom. Alors, sept livres ont été signés sous la plume de Richard Bachman. Savez-vous pourquoi Stephen King utilisait un nom d'auteur ?
Alors moi, il me semble que c'est parce qu'il voulait savoir si son succès était dû plus à la chance que... Enfin, moi, c'est ce que j'ai en souvenir. Plus à la chance ou à son talent, et qu'il a préféré, dans les années 70 jusqu'à 80, du coup, signer sous le nom de Richard Bachman pour savoir si vraiment ce succès était vraiment mérité.
Alors,
donc,
pas du tout.
Voilà. C'est pas ça ?
Non, pas du tout.
Ah, mince.
Non, c'est très bien, je t'ai laissé finir.
Zut !
Pour le plaisir de te dire non. Non, en fait, à l'époque, déjà, il faut savoir que les standards de l'édition de l'époque ne permettaient pas à un auteur de publier plus d'un livre par an. Donc, ça lui permettait, lui qui écrivait beaucoup, d'éditer plusieurs livres. Et après, c'était aussi pour se libérer. Ça arrivait une fois qu'il était connu.
Changer de style aussi, peut-être.
C'était pour se libérer de la pression que sa notoriété grandissante lui apportait. Parce qu'on attendait les Stephen King. Et donc, ça lui permettait de sortir des livres.
Ah, donc il a continué en tant que Bachman.
Voilà, pendant 7 ans.
Running Man, il a signé sur Richard Bachman aussi.
Alors, le premier roman qu'il publie sous son pseudonyme, exactement, c'est Rage en septembre 1977.
Excuse-moi, je suis un peu bilingue.
Ouais, ou Edge, si vous voulez, et Elodie, le deuxième, souvent considéré comme le meilleur roman publié sous le pseudonyme de Bachman, choisi par Sébastien pour ce concours et que tu vas nous présenter, et Marche ou Crève, publié en édition de poche en juillet 1979.
Une très belle année, je suis d'accord. je suis d'accord avec Sébastien parce que moi, c'est un livre qui m'a vraiment marqué. À l'époque, quand je l'ai lu, je ne savais pas que c'était Stephen King. Bon, en même temps, je pense que j'avais une quinzaine d'années. Et il m'a vraiment marqué pendant des années. Pourquoi ? Alors, l'actualité nous a un peu rattrapés. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, ce livre a été adapté pas plus tard qu'au printemps dernier, enfin, à l'automne dernier.
Oui, c'est sorti dans les salles il y a 2 semaines ou 3 semaines,
voilà,
je crois.
Voilà, donc en octobre 2025, pour la version américaine, il est sorti au cinéma, Marche ou Crève. Et donc, il a été adapté. Alors, j'ai vu quelques extraits, j'ai pas vu le film, mais il a l'air assez fidèle quand même au livre. On est sur l'histoire, donc, on est dans la situation d'une Amérique très totalitaire. Et chaque année, on a une longue marche qui s'organise, une sorte de compétition un peu mortelle, où on a une centaine d'adolescents qui participent. On ne sait pas s'ils le font vraiment de leur plein gré ou pas, ou s'ils sont un peu forcés, on leur force un petit peu la main, qui vont s'élancer dans une route sans fin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il faut qu'il n'en reste qu'un. Il y a des règles, pas beaucoup. La règle, c'est de marcher environ à 5-6 km/h. Si on va trop lentement ou trop vite, on a un avertissement. Et au bout de 3 avertissements, la sentence, c'est fatal. Ils sont exécutés par des soldats qui longent le parcours. Donc, nous, on va suivre le roman suit l'histoire de Gay. Oui, Gay Garati, je crois, ou je sais plus. Oui, Ray, peut-être Ray, c'est son nom. Oui, c'est ça. Ray qui a 16 ans, et donc qui, lui, est le narrateur. Donc, c'est à la première personne, on est dans sa peau. Et on va le suivre, on va suivre ses pensées, on va suivre ses souvenirs, on va suivre toutes ses interactions avec les autres marcheurs. Et on va découvrir complètement l'horreur de l'épreuve au fur et à mesure que les pages arrivent. Donc, il va y avoir la fatigue, la fin.
Parce que c'est 24-24 qui marche.
Ah, mais ils s'arrêtent jamais. Ouais. Ils n'ont pas le droit de s'arrêter. Ils n'ont pas de pause. S'ils s'arrêtent, ils sont
c'est
exécutés.
C'est terminé.
Voilà. Donc, on a toute la folie. On est dans sa tête. Hein, donc, on a toute la folie des uns, la sienne et celle de ceux qui marchent. Une pression psychologique qui, au fil des pages, devient de plus en plus oppressante. Et les adolescents, en fait, pour survivre, ils vont finir par se trahir les uns les autres. Parce qu'au début, ils sont tous solidaires, ils marchent ensemble. Vas-y, tiens le coup, tu peux y arriver. Et au fur et à mesure, c'est vraiment affreux. Il y en a certains qui abandonnent. On sait qu'ils vont mourir. Il y en a certains qui se suicident, hein, parce que la pression est trop forte. Même lui, à un moment donné, on sent qu'il commence à dégoupiller dans sa tête. Alors, au moment où il pète un câble, je ne sais plus ce qu'il fait. Ah si, je crois qu'il s'arrête et il va embrasser la première fille parce qu'il se dit, quitte à mourir, il faut que moi, j'ai embrassé une fille dans ma vie. Et donc, il s'arrête, il prend une fille qui est là dans les spectateurs, qui applaudit sur le bord. Et il va l'embrasser. Et on entend premier avertissement, il prend trop de temps, deuxième avertissement, et on se dit, il va se faire exécuter. Après, on se dit, mais c'est lui qui raconte l'histoire, il reste encore 100 pages. Je peux pas mourir puisque c'est moi qui raconte l'histoire. Donc, on espère qu'il va survivre.
Ne nous dis pas tout. Hein.
Je vous dis rien, mais c'est quand même horrible.
c'est la tension.
Voilà, il n'y a pas de récompense à la fin. Celui qui gagne, mais il gagne rien en fait, à part le... Il gagne rien. On est dans une sorte de cauchemar réveillé. On ne sait pas trop. Alors, c'est un peu frustrant parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est que ce régime totalitaire. On ne sait pas trop pourquoi ils sont là. C'est assez nébuleux quand même. Et... on a la soumission à l'autorité du... Et pourquoi ils se mettent... Ils vont faire ça, quoi.
Pourquoi ils acceptent
ça? Pourquoi on accepte ça? Cette soumission qui est quand même très, très dure à accepter. Voilà. Donc, c'est un livre vraiment que je recommande parce que moi, il m'a marqué pendant des années. Il y a des passages qui sont assez durs, qui parlent d'automutilation, qui parlent du suicide. Enfin, franchement, il faut... Voilà. Mais c'est une dystopie assez intéressante. Et moi qui m'a fait penser, alors, et c'est pas pour rien d'ailleurs, que celui qui est en train de qui a fait le film là, dernièrement, l'a fait l'adaptation, c'est celui qui a réalisé Hunger Games.
Mais tu vois, depuis que tu as commencé, j'ai pensé à ça.
C'est le même réalisateur et je trouve pas ça du tout surprenant parce que ça correspond vraiment à l'esprit du... On a des jeunes, alors on pourrait être sur du young adulte en termes de lecture, des jeunes qui se battent pour leur survie. Et ouais, on est avec eux, on souffre avec eux, il n'y a aucun sens à ça en fait. Et il y a quand même un moment où on se rend compte que les soldats, eux aussi, sont victimes
de quelque chose, de quelqu'un.
Ils sont là. Et pendant tout le livre, on se dit, voilà, jusqu'où moi j'irai pour survivre, quoi. Donc, voilà, un livre que je recommande. Et un excellent Richard Bachman, Stephen King.
Et puis, tu peux pas t'arrêter de lire un truc comme ça.
Ah, tu peux pas, t'as envie de savoir si tu vas survivre.
Sinon, on te tire dessus.
Et ouais.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est une course, c'est vraiment haletant. Hein. Tu marches avec lui. Enfin, moi qui suis pas une grande marcheuse, j'étais épuisée. Quand j'ai fini les pages, j'étais épuisée.
Si tu lis à moins de 6 km/h le livre, bim.
Après, le livre, moi, je l'ai lu à 15 ans. Il se lit très facilement. Il est accessible en termes de lecture. Il n'est pas trop exigeant, quoi.
Mais là,
de vocabulaire.
Il parle d'adolescents. Donc roman d'anticipation dystopique, tu l'as dit. L'American Library Association l'a cité dans les 100 meilleurs livres pour adolescents publiés entre 1966 et 2000.
Donc il s'adresse.
Il est absolument génial. Il dénonce un peu tous les systèmes oppressifs aussi qui sont. Enfin voilà, il a une deuxième lecture qui est assez intéressante.
Ouais, c'est aussi une critique de l'esprit de compétition permanent qui prévaut dans une Amérique ultra-libérale. Alors, Stephen King, c'est un grand démocrate depuis toujours qui se bat. Contre
la façon dont les individus sont broyés et surtout sans raison. Il n'y a pas de raison à ça. Comme si quelque chose était gratuit, en fait. On détruit, on broie les gens sans qu'il y ait de véritable explication à tout ça. Et voilà. Il n'y a rien à y gagner à la fin.
La fortune. Moi, j'ai lu « La fortune étant promise au dernier marcheur survivant ».
Oui, mais à la fin, tu te rends...
On ne veut pas savoir.
Je ne vais pas raconter, mais tu te rends compte qu'à la fin, il n'y a personne qui gagne. Il n'y a pas de happy end, en tout cas.
Ouais. Stephen King a écrit ce roman en 1966-67, alors qu'il était étudiant à l'université du Maine. Il en a eu l'idée en faisant de l'autostop entre chez lui et l'université. Alors, c'est le premier roman que l'écrivain a réussi à terminer. Il a présenté un concours de premier roman organisé par Random House, qu'il a rapidement rejeté au grand désarroi de King. Et il a été finalement publié 12 ans plus tard.
Voilà, sous le titre de « La longue marche ».
The Long Walk.
Exactement. Absolument, merci.
C'est ça. voilà, et après, c'est vrai que beaucoup de critiques disent que c'est un tournant dans l'écriture de Stephen King. Hein.
Peut-être, ouais.
Voilà, qu'il a commencé à créer...
Je ne connais pas toute sa biographie, mais c'est excellent.
Ce qu'il dit, c'est qu'il a commencé à créer des personnages marquants en quelques lignes seulement. La psychologie des principaux marcheurs s'ouvre de plus en plus aux lecteurs, alors qu'ils mettent leur âme à nu, parlant de la vie, de la mort, de l'amour, du désespoir. Voilà, il a commencé à trouver un peu son écriture, apparemment, dans ce livre. Alors, pour clôturer notre page de Stephen King, le premier livre à sensation que Patricia a lu, jeune adolescente, et qui l'a fait frissonner, est ça, publié en 1986 et qui a remporté le prix British Fantasy en 1987. J'ai l'impression qu'il...
Et qui a quand même traumatisé des générations de gens qui détestent les clowns à cause de lui, quand même. Hein.
Oui, c'est
on
ça.
On est d'accord. Valérie doit adorer les clowns, mais...
Tiens, Valérie arrive. On va la laisser s'installer.
Salut, Valérie. Hello, ça va bien, oui?
Ah ben, ça fait plaisir de te voir arriver à l'heure, dis-moi.
Ben, j'ai jamais été autant à l'heure.
Alors, t'as loupé deux beaux livres. Alors, je rappelle... Pour nos auditeurs qui nous rejoignent, si comme toi ils sont en retard, c'est suite au concours de la librairie sur les livres qui font peur. On a présenté livre de Juliette, il me semble, avec Misery.
Apparemment, il y a eu erreur. C'était
Juliette avait voté pour Misery aussi, mais on avait pioché.
C'est Laurent qui avait gagné. Laurent,
tu as lu le livre du gagnant.
Et oui,
ah, c'était Laurent le vainqueur.
Bravo Laurent.
Ah voilà, mais Laurent.
Manquait une information.
Et oui, j'avais pas cette information. Mais on salue Laurent. Il a dû bouillir en écoutant la première chronique en disant c'est mon livre. Et oui, c'est le livre de Laurent et le livre de Sébastien. J'espère que je ne me suis pas trompé, Marche ou Crève.
Non, c'était bon, ouais, c'était Marche ou Crève.
C'était bien ça. Et ça que Patricia a lu Jeune adolescente et qui l'a fait frissonner. Je reprends pour Valérie. Alors ça, tout le monde l'a vu au moins en film, hein, parce qu'il est sorti.
En téléfilm.
En téléfilm.
Enregistré sur cassette, un peu qui saute.
Téléchat.
Ouais, ouais, en téléfilm, d'ailleurs, que j'ai presque préféré que le film qui est sorti dernièrement, où je n'ai même pas vu le tome 2 parce que
Dracula.
J'ai peur. Non, ça.
Arrêtez, j'ai peur des clous.
It. Alors, qui raconte l'histoire d'un groupe d'amis d'enfance, le Club des Ratés, 7 enfants exactement, qui grandissent dans la ville de Derry, un endroit marqué par des disparitions mystérieuses et une violence latente que personne ne semble vraiment vouloir voir. Alors, ils découvrent que cette atmosphère oppressante est liée à une entité surnaturelle capable de changer d'apparence et qui se manifeste le plus souvent sous les traits d'un clown inquiétant nommé Gripsou. Ou sinon, en version originale, Pennywise, qui n'a aucun rapport avec les Beatles, d'ailleurs. Pennywise.
Ça ne serait pas pareil, je crois.
Ouais. Et c'est peut-être même pas le vrai titre.
Ni avec Gripsou de Walt Disney, du coup.
Et ni avec Gripsou.
Ouais. D'ailleurs, c'est Picsou, il... celui qui est Gripsou. Bien, Gripsou. Ouais.
Il a trouvé ce personnage en voyageant en avion. Et il y avait quelqu'un qui était grimé en Ronald McDonald à côté de lui. Et ça lui a donné l'idée.
Alors, je comprends qu'il ait eu peur.
Alors, entre deux, c'était Ronald McDonald et la deuxième personne qui lui a donné l'idée, je ne sais plus.
Sa belle-mère.
Non, c'était peut-être Regan. Ça ressemble, mais c'est pas sûr du tout. Alors, où on en était ? Gripsou, alors la créature se nourrit de la peur des gens et surtout des enfants. Il les cible en priorité et il les attire en exploitant leurs angoisses les plus profondes. Alors, durant un été particulièrement traumatisant, les ratés parviennent à affronter et blesser cette entité, croyant l'avoir vaincue, mais ils savent au fond d'eux qu'elle pourrait revenir. Ils promettent alors de revenir à Derry si jamais ça refait surface. Et qu'est-ce qui se passe 27 ans plus tard ?
Il revient.
Eh bien, alors qu'ils ont tout oublié ou presque des événements de leur jeunesse, de nouveaux meurtres surviennent et l'un d'eux, resté à Derry, les rappelle pour honorer leur pacte. Devenus adultes, ils reviennent. Ils doivent affronter non seulement la créature, mais aussi leurs propres souvenirs refoulés, leurs traumatismes et les liens qui les unissaient autrefois. Oui, comme tu disais, Pauline, je pense que ça a marqué toute une génération.
Et oui, moi, je me pose même la question, est-ce que les clowns sont vraiment effrayants par nature ou est-ce qu'il y a toute une génération de personnes qui est terrifiée par les clowns à cause de cette histoire ?
Non, je pense que c'est l'histoire.
Ouais, hein, je crois pas que les clowns fassent peur.
Alors, pas tous les clowns un peu blancs, là, un peu...
Enfin, il y a une grande majorité de clowns qui est un peu effrayante, quand même. Enfin, pour moi,
personnellement. Moi, je vais plus au cirque. Je ne vais plus au cirque, je ne peux pas.
Mais je ne sais pas s'il y a eu un autre clown avant effrayant avant ça. Nous, c'est vrai que c'est notre, c'est le départ de.
Mais c'est notre génération à nous. Peut-être que les prochaines générations auront moins peur des clowns.
Et oui,
celui du fast-food. C'est flippant aussi.
Oui,
Élodie, c'est pas sûr parce que là, ils viennent de sortir une série sur ça. C'est sorti là, je crois que sur Netflix ou sur. Non, c'est peut-être pas Netflix, c'est sur une autre.
Avec ce que voient les jeunes, c'est pas ça qui les.
C'est sur HBO.
Voilà.
Ouais, mais enfin.
Nous, on n'avait rien d'autre.
Le clown, il fait peur.
On était en noir et blanc, je te rappelle.
Oui, c'est vrai.
Enfin, surtout toi, mais enfin...
Oui, mais bon, mais le téléfilm était en couleur à l'époque, il me semble.
Le téléfilm était
déjà,
terrifiant.
Qui dit téléfilm ? Qui dit téléfilm ?
Oui, déjà, bon, c'est mal barré, oui. Mais le bouquin est aussi... Tu étais sous pression tout le temps. Ouais, non, tout le temps.
Et oui, en plus, c'est intéressant parce que justement, c'est des personnages à l'âge enfant et à l'âge adulte. Donc, on voit leur progression, leur réflexion. Il y a beaucoup de personnages. Hein,
comme les traumatismes d'enfance te restent jusqu'à l'âge adulte. Ouais.
Alors, il a commencé ça le 9 septembre 1981. Il a achevé le roman le 28 décembre 1985. Il a mis 4 ans pour écrire le livre. Et voilà.
Étonnant, parce qu'il écrit vite, quand même, d'habitude.
Ouais.
Ouais, mais là, il s'est appliqué quand même. Ouais. Par rapport à d'autres qui sont un peu...
Alors, un peu plus bâclé. Ouais.
Pour l'histoire, le premier tirage atteint 1 million d'exemplaires. C'est la première fois dans l'histoire de l'édition qu'un premier tirage d'un roman a atteint ce nombre symbolique.
Ah ouais.
Donc ce n'est pas rien. Pour parler de Stephen King, à 13 ans, en 1960, Stephen découvre une caisse de livres qui appartient à son père et dans laquelle se trouve une anthologie de nouvelles de qui ? De H.P. Lovecraft, yeah, qui constitue sa première lecture d'horreur sérieuse. D'ailleurs, pour lui, c'était le summum, hein, Lovecraft, il a dit dans diverses interviews. Mais oui, Valérie, car Lovecraft ne serait-il pas un maître de l'épouvante ?
Ah, si, mais en plus, dans tous les sens du terme, tant le personnage que ce qu'il écrit.
C'est ça.
C'est double épouvantable.
Alors, on en avait déjà parlé, on avait déjà fait sa bio, donc on ne va pas revenir dessus, mais on va parler d'un livre que Yves a choisi dans le concours, Démons et merveilles. Et il a marqué dans le bulletin transmis à la livrerie, un monde qui attend au sous-sol, Valérie.
Oui, effectivement. Alors, on connaît tous Cthulhu, les montagnes hallucinées, des romans un peu longs de Lovecraft dont on parle assez régulièrement. Pas aussi souvent que Joël Batz, Gardien de ma vie, édition illustrée 1984.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'ailleurs, tiens.
Dernière émission, je pense.
Ah, j'étais pas la dernière.
Et donc, voilà, là, celle-ci, donc le recueil qui a fait peur à Yves, c'est Démons et merveilles. Même la couverture sur les différentes parutions qu'il y a eu fait peur. C'est toujours sombre. Et dans ce recueil, en fait, c'est plusieurs histoires. C'est plusieurs personnages de Lovecraft qu'on retrouve, comme Cthulhu, évidemment, ce grand géant absolument ignoble dont on ne sait pas trop quelle forme il a. On le représente comme une sorte de pieuvre, mais qui arrive à manipuler les gens à distance. On retrouve aussi Astaroth, Subingoth, qui est la chèvre aux mille rejetons et qui les gouverne aussi. Voilà, et c'est dans ce recueil, en fait, les nouvelles sont aussi sombres les unes que les autres, et je comprends pourquoi ce recueil a effrayé Yves. Et je vous invite, si vous n'avez pas envie de découvrir un roman entier de Lovecraft parce que vous avez peur d'avoir trop peur, lisez Démons et merveilles, où il y a plein de petites nouvelles dedans.
Oui, alors Pauline, ça fait marrer Pauline, donc c'est bien pour une émission qui parle.
C'est censé avoir peur, c'est pas censé être une émission comique.
Qu'est-ce qu'il y a ? Mais si, qu'est-ce qu'il y a ? Bravo. Tu veux dire un mot, Pauline ?
Non, rien du tout, merci.
Okay. Alors, Démons et merveilles, un recueil de nouvelles de l'écrivain donc américain Lovecraft, on l'a dit, hein, composé de 4 textes écrits entre 1919 et 1933, dont le personnage principal est Randolph Carter. Et le titre, alors ça c'est rigolo, tiens, le titre de l'ouvrage est emprunté à la chanson Démons et merveilles signée Jacques Prévert et Maurice Thirier, que l'on entend dans le film Les Visiteurs du Soir de Marcel Carné. Parce que à l'époque, il n'y avait pas de titre en français, donc il fallait en trouver. Et j'imagine qu'on ne traduisait pas automatiquement et qu'on s'est dit tiens, il est pas mal ce film. Alors je ne vois pas le rapport entre ça, mais voilà. 1890, il est né à Rhode Island. Il est mort le 15 mars 1937 dans cette même ville. Hein. On vous invite à le lire. Hein. Il y a beaucoup de livres à la livrerie de Lovecraft.
Ah,
tu en as ?
Je pense qu'il y en a. Sauf celui-là, actuellement, que je n'ai pas. Mais je pense que...
Il est en rupture de stock.
Sous toutes les éditions. Puis alors, pour moi, la meilleure chose qui existe autour de Lovecraft en ce moment, c'est les adaptations en manga de Guntanabe qui sont absolument... terrifiante, qui y a le texte et l'image qui font le premier baf, et le retour, c'est génial.
Les couvertures, on dirait du cuir. C'est ça qui est dur dans Lovecraft, c'est imaginer ces monstres. Ouais. Et alors, s'il a réussi...
Il a réussi et il leur donne des regards... Waouh, enfin, c'est... moi, je sais que sur le... Je crois qu'on l'avait déjà parlé, l'abomination de Dunwich. C'était exactement ce que j'avais imaginé, et je sentais l'odeur de ces espèces de monstres qui étaient en putréfaction, là, qui sortaient des mers. Il y avait tout qui passait, c'était encore plus fort, je crois, que le roman.
Allez, merci Valérie, on va faire une pause musicale et on va revenir avec cette sélection de livres d'horreur. Voilà pour cette musique qui nous a fait bien peur, et j'espère à vous aussi. Et parce qu'il n'y a pas que les adultes qui ont peur, les enfants ont aussi participé au concours de Valérie, avec Clarisse qui, comme Pierre, ne mangeait pas sa soupe et du coup, elle avait peur que Cornebidouille vienne voler son doudou. Alors, c'est dommage, j'avais posé mon livre de Cornebidouille sur ma table et je l'ai oublié. Alors, j'aurais bien aimé vous présenter ce livre, cette chronique en même temps que ce livre, mais j'imagine que vous le connaissez tous.
Par cœur. Adore tous Cornebidouille.
Mais oui. Oui, mais est-ce que c'est celui-là qui nous a fait le plus peur ou c'est Cornebidouille contre Cornebidouille?
Ah, je l'adore. Ouais. Mais elle ne fait pas tant peur que ça, elle fait plus rire.
Et oui, parce qu'il y a Cornebidouille contre Cornebidouille, il y a une, deux, trois Cornebidouille, il y a quand Cornebidouille était petite, où l'on apprend comment elle est devenue une sorcière, et il y a aussi la vengeance de Cornebidouille. Non mais Clarisse a choisi non Cornebidouille, pas mon doudou. Édité à l'école des loisirs, qui est quand même mon préféré. Alors, c'est l'histoire de Pierre qui, quand il était petit, ne voulait pas manger sa soupe. Et Valérie, est-ce que tu sais ce qui arrive aux petits garçons qui ne veulent pas manger leur soupe?
On les mange.
Et ils ne grandissent pas.
Non, pas du tout. Eh bien, à minuit, la sorcière Cornebidouille vient les voir dans leur chambre et leur fait tellement peur que le lendemain, non seulement ils mangent leur soupe, mais ils avalent la soupière avec. C'est ce que lui a dit le père de Pierre, son père. C'est pas très sympa quand même, ça fait un peu flipper. Sauf qu'en fait, Pierre s'en fiche parce qu'il ne croit pas aux sorcières.
Il a raison.
À un moment, non, parce qu'il faut admettre que son père avait raison. Sur un point, une nuit à minuit, dans la chambre de Pierre, la porte de l'armoire s'entrouvre avec un grincement terrible et Cornebidouille fait son apparition. Alors, elle vient au-dessus de son lit, elle lui vole son doudou et elle repart par les toilettes qu'elle habite au fin fond des toilettes de l'autre côté.
Forcément.
Ah non,
ça, c'est un truc à plus pouvoir aller aux toilettes, ça.
C'est ça. Et elle était là pour faire peur.
Il y a beaucoup de toilettes dans Cornebidouille. Hein.
Ouais, c'est vrai. Et elle était là pour faire peur à Pierre, mais est-ce que Pierre va vraiment avoir peur? Ça, on en est moins sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, il n'a pas peur d'aller chercher son doudou et de faire le chemin inverse le lendemain matin quand il découvre bien qu'il a disparu et que des traces mènent aux toilettes, au trône, comme on dirait à l'époque. Et donc, il descend, il va chercher son doudou, il va se confronter à Cornebidouille et je vous en dirai pas plus. Je sais que je vous aimais bien quand je sors de mon époque. Voilà, l'auteur est Pierre Bertrand, qui est par ailleurs conteur professionnel, comme Valérie à un moment de sa carrière.
C'est ça. Et pour information, donc, dans Cornebidouille contre Cornebidouille, l'insulte d'une des Cornebidouille, c'est « pue du bec des toilettes ».
Oui.
Voilà. Eh bien oui, parce que...
Au cas où... Voilà, pour compléter l'histoire des toilettes.
C'est tellement drôle.
Voilà.
Enfin, c'est
il y a
Fessu
du popotin aussi qui est très drôle. J'aime beaucoup.
Alors, moi, je le lisais à ma fille qui avait 3 ans et elle avait un peu peur. Il fallait que je cache les moments où Cornebidouille était là, jusqu'à ce que je prépare cette chronique et que j'apprenne que c'est pour les enfants de 6 ans.
Forcément, donc, forcément le petit trauma.
C'est peut-être pour ça.
Voilà, 3 ans trop tôt.
Et ouais. Voilà, des années de psy.
Non, mais depuis, elle a plus peur. Après, c'est quand même rigolo. Bon, elle fait un peu peur des fois, Cornebidouille, mais ça reste rigolo.
Ouais, on s'éclate. Enfin, à lire ça
en tant que parent. Pour les adultes, c'est génial.
C'est fabuleux.
Je ferai la sorcière de la rue de Broca.
Alors, ah oui, bah c'est beaucoup c'est plus sympathique. Aussi.
Sorcière, sorcière, prends garde à ton dernier.
J'ai pas dit la fin. Si tu l'as
dit. Ah oui, ça c'est un livre que j'ai lu en école primaire avec plusieurs histoires.
Les contes de
la
rue de Brocas.
Ouais, excellent.
Vous n'avez pas présenté pour l'émission des sorcières.
Sorcière du placard à balai.
On a fait une émission sur les sorcières.
Bah oui.
Ah bon?
Ben, je me rappelle pas. Non, pas du tout.
Non, j'étais enceinte,
si.
Je crois.
Oui, mais attends, c'est bien. Ah, ben si, complètement. Hein. On a fait sorcière de Mona Chollet, sorcière avec la sorcière
d'Est
et d'Ouest. Si, on a
on
combien
devait pas être là.
Ah oui.
Mais si, c'est là, je vous promets, j'étais pas seule sur cette émission.
C'est le soir où elle accrochait la voiture en sortant de l'émission.
C'est une émission dystopique, en fait. J'ai inventé des thèmes d'émission. Non, je vous promets.
Non, mais alors, on va faire une émission sur les thèmes des sorcières.
Tu as raison, parce que j'ai présenté un livre féministe sur les sorcières.
Ah, quand même. Non, mais c'était une émission sorcière, je vous promets.
Oui, c'était une émission sorcière.
Trop d'alcool dans cette émission du livre sur le
zinc. Ou peut-être trop de...
Non, mais des sorcières, tu sais, quand on a peur, c'est un réflexe défensif. Hein. C'est okay. Souvent comme ça. On va rester dans les livres pour enfants. Alors, en plus, on parle des livres pour enfants, s'il te plaît, Elodie. Oui. Avec Pauline, qui va nous présenter Chut, de Peter Hutton et Dali Greenlee.
Ah oui. Ah non, pas du tout. Ah non, alors...
Ah non,
je vais vous lire un livre.
Alors, moi, je le lis un peu comme ça au début, parce qu'effectivement...
Il est un peu crayonné, ce livre.
Ça, tu ça as des cause. Enfants.
c'est un livre dans lequel il ne faut absolument pas faire de bruit, puisque tu vas pénétrer dans un manoir dans lequel dort un ogre. Et il y a une petite souris, mais il ne faut pas la réveiller, alors... Vérifie en regardant par la petite porte si la souris n'est pas réveillée. Tu ne l'as pas réveillée ? Ouf, tout va bien. Et puis tu avances dans le château sans faire le moindre bruit jusqu'à ce que tu tombes sur l'ogre qui ronfle. Il dort encore.
Il y a plein de pages que tu oublies d'ouvrir.
Voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup de pages que tu es obligé d'ouvrir, mais tu peux regarder dans chaque pièce que tu viens de traverser si le personnage que tu as croisé n'a pas été dérangé dans sa tâche et ne serait pas parti prévenir l'ogre que tu étais là. Jusqu'à ce que... Donc tu racontes tout en chuchotant parce qu'il ne faut absolument pas faire de bruit. Jusqu'à ce que tu arrives dans la chambre de l'ogre, qui dort profondément. Mais est-ce que tu es capable de crier « Bouh !»« Bouh !» Et là, tu ouvres la porte et évidemment... Tu as réveillé l'ogre, alors il faut vite courir, vite, fermer le livre. Et ouf. Alors je déconseille, chut, aux petites filles qui ont eu peur de Cornebidouille, parce qu'elles vont être terrifiées par ce livre.
Je voulais te l'emprunter.
Ludo, il va le prendre. Il est
chouette.
Bah oui, il est fabuleux. Il est absolument fantastique, parce que, évidemment, les enfants, ils sont fantastiques pour ça. C'est que tu peux le lire 10 fois et 10 fois, ils vont sursauter quand ils vont voir l'œil de l'ogre réveillé, quand il va se réveiller à la fin et qu'il faudra courir après. Ils vont sauter sur la couverture pour vite fermer le livre. Alors, autant je ne suis pas quelqu'un qui fait les voix, etc. Autant là, il faut rentrer dans la lecture et ça fait tout. Et c'est un moment génial. C'est fabuleux. C'est extrêmement simple. Mais alors, incroyable.
Efficace.
Ultra efficace. Qu'est-ce que c'est génial à lire et qu'est-ce que c'est génial à écouter.
Donc en lecture à voix haute, conseillé.
Ah ouais, fabuleux.
Ok.
À découvrir.
Okay. Alors je peux pas le prendre.
Si, mais bien
peur.
Sûr, tu peux le prendre. Ah. C'est Sally Greenlee et Peter Hutton.
Si tu veux des enfants qui crient en plein milieu de la nuit, tu peux le prendre.
Voilà. Rien de spécial à dire sur la biographie des deux auteurs. Et Pauline, alors quand j'ai vu que, comme je prépare les émissions, j'ai la chance d'avoir vos livres avant. Quand j'ai vu que tu allais présenter ce livre-là, je me suis dit, mais j'ai le pendant de Chute.
C'est pas vrai.
Donc
non.
Je vais l'amener.
Et ouais. Non.
Car le pendant de Chute, c'est
toc, toc, toc.
Toc. Ah. Toc Toc, tu connais Pauline ?
Non, je ne connais pas Toc Toc, on va échanger alors.
Voilà, exactement. T'as vu, moi aussi, il a des problèmes d'enfant. Ouais. Alors, c'est simple, donc on voit un petit garçon qui est caché par une capuche et qui dit « C'est un endroit un peu spécial, un château étrange, j'habite ici avec mes parents, nos voisins sont un peu bizarres. Approche si tu veux savoir, plus près, encore plus près, mais reste derrière moi, on ne sait jamais. » Donc on va aller partir à la découverte des voisins de ce petit garçon. Et donc chaque porte où il faut taper pour entrer a une forme et une illustration différentes. Donc là on voit la première porte avec des dents tout autour et qui c'est qu'on va retrouver ?
Cornebidouille.
Et on va retrouver le loup qui nous dit « Mais entrez, n'ayez pas peur, je faisais cuire des petits oignons, venez pour vous réchauffer. » Et en fait, quand on regarde un peu, ben, on voit le petit chaperon rouge quelque part, on voit les cochons.
Et puis tout le monde a l'air bien inquiet au fond de la cave, là, bien terrifié.
C'est ça. Donc voilà, en fait, on va faire tout le château, toc, toc, toc. Merci pour les bruitages,
Élodie,
tu le fais vachement bien.
C'est cadeau.
Donc on va tomber sur des voisins. Il va y avoir des pirates, il va y avoir « Oh tiens, une porte de pain d'épices, c'est étrange, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dedans ?» Eh bien, on va retrouver une sorcière avec Hansel qui est un peu dans une cage avec son os qu'il donne pour faire croire qu'il est encore tout maigre et qu'il ne se fera pas manger, etc. Jusqu'à arriver à la fin où, bien sûr, on suit le petit garçon. Qui nous invite chez lui.
Je veux savoir la fin.
Et donc, je vais peut-être pas spoiler. Et donc, il dit « Entre, maman, nous attendez. » Et on découvre que c'est une famille un peu spéciale.
Ouais.
Voilà. Et
avec
il
des
nous
dents
invite,
un peu pointues.
Voilà. Il nous invite à manger. Et on se rend compte que peut-être qu'à la fin, ben, on va peut-être aussi faire partie du repas. Donc, comme... Pauline, on ferme vite la porte. Voilà, c'est Toc Toc Toc, c'est chez L'Élan Vert, que je ne connaissais pas, de Christelle Valla et de Joël Dredemi, donc ça m'a fait penser à ça. Même.
Ah bah oui, c'est tout à fait l'idée. Ouais.
On est dans la même veine.
Voilà, pour les enfants, pour Noël, pour les faire flipper si vous embêtez toute l'année. Allez, on va poursuivre Valérie. Deux personnes qui ont voté pour la route de Cormac McCarthy, avec Fabien qui nous dit « L'homme est un loup pour l'homme ». Qui a mis ça dans
ça,
le message de vote.
Quoi.
Et Hélène qui nous parle d'angoisse, de manque de respiration et de manque d'horizon.
Ça, c'est à cause de la cendre. C'est parce qu'elle n'arrive plus à respirer, parce que dans la route de Cormac McCarthy, tout a brûlé, des nuages de poussière de partout. Et c'est une atmosphère absolument irrespirable. Et au-delà du roman de Cormac McCarthy, de la route, il y a l'adaptation en BD par Larsenet de la route, qui est encore plus flippante. Là, je suis très sur les adaptations ce soir, après Cthulhu, après Lovecraft, mais il y a aussi La Route. La Route, c'est quoi, c'est une dystopie ? Non, c'est dans le présent. Hein, c'est arrivé,
moi, je dirais que c'est dans...
Tu trouves qu'on y est ?
C'est un roman post-apocalyptique.
Oui, c'est ça. Donc, il y a eu cet apocalypse.
On est en plein dedans, donc.
On suit un... Ça fait une éternité.
Oui, 2006. Il a été publié en 2006.
Un père et son fils, voilà, qui se retrouvent seuls. Et ils doivent tenter de survivre. Et il y a une sorte de chose qui se passe, c'est que les quelques survivants qui croisent... En fait, ils fuient, ils avancent, ils n'ont rien, ils ont...
ils veulent rejoindre la mer.
De conserve, ouais, voilà.
Ils n'ont rien à manger.
Quelques couvertures. Et ils croisent quand même quelques humanoïdes, quelques humains, mais qui sont devenus ultra violents, ultra mauvais. Et le fils, lui, il a envie de rester optimiste en disant que certaines personnes peuvent encore avoir le feu. Le feu, c'est l'espèce d'humanité, lien qui peut encore y avoir entre les humains. Ce que le père, en fait, lui essaye d'inculquer au fils, c'est que on peut encore croire,
on peut rester humain,
mais tout en étant ultra vigilant. Donc c'est très dur pour lui de dire à son fils, tu dois te méfier de tout le monde, et en même temps, un jour ça arrivera, on va retrouver quelqu'un qui sera bon. Et le fils, lui, il a l'impression que dans chaque personne qu'il va croiser, ces personnes-là peuvent être porteurs de ce feu qui rend humain. En fait, c'est très, très, très sombre. Et c'est haletant, parce que autant ils avancent, autant tout est violent.
Et ça va de mal en pire. Ça ne s'arrange jamais.
Tu l'as lu, Pauline, oui.
Oui. Oui, oui. Alors, je l'ai lu aussi il y a très longtemps. Ouais. Je pense que ça doit faire... Ils sont sortis en quelle année ?
2008 en France.
Ouais. Ah oui, moi aussi j'aurais dit, parce que j'allais dire il y a peut-être 20 ans, mais non, alors ça fait peut-être 15.
2008, c'est presque 20.
Ouais. Mais oui, c'est...
C'est glauque, c'est fumeux, on a l'impression qu'il ne va jamais rien arriver. Enfin,
tout est étouffant.
Ils avancent, mais il ne se passe jamais... Enfin, on ne sent jamais le bout du tunnel. Oui. Quoi. On est justement dans le tunnel tout le temps.
Le papa avance pour avancer, qu'il lui dit on va à la mer pour avoir un objectif, pour le faire avancer, mais
il y a tout qui se ferme. Enfin, tout est très noir, très sombre, très...
Et il y a des moments terrifiants. Il me semble de me souvenir d'un moment où il trouve une espèce d'abri souterrain, il soulève donc une trappe, et dans cet abri, on n'arrive pas à comprendre vraiment ce qu'il y a dedans, mais visiblement, c'est des humains, et c'est très malsain, c'est très... Ça hurle, ça transpire, on est très mal.
Oui, c'est pas détaillé, donc c'est pas décrit, donc du coup ça reste que
de l'imagination. Mais ça peut nous emmener très loin, l'imagination. C'est vraiment une sensation tout le long.
Étouffant. Que c'est tout le temps dehors.
Enfin, oui.
Pardon le micro. Oui.
C'est tout ça. Il est revenu plusieurs fois dans les livres qui ont été proposés. Ouais. Ça m'étonne pas parce que ces mondes post-apocalyptiques. On peut les imaginer venir, on peut voir la folie humaine qui arrive, et on se dit ça pourrait peut-être ressembler à ça. Je pense qu'il y a ce côté-là aussi qui est assez flippant. Et puis là, on imagine qu'il y a pu avoir une catastrophe nucléaire ou quelque chose comme ça.
Oui, mais tu vois, dans les mondes post-apocalyptiques, il y avait aussi dans la forêt de Jean Egland, où il y avait l'histoire de deux filles qui se retrouvaient seules. Je ne sais pas si... Non, je n'ai pas lu. Il faudra le lire, c'est vraiment bien. Mais il y a derrière, elles survivent, c'est-à-dire elles sont seules. On sait que les humains ont
disparu,
sont plus là. Mais il se passe quelque chose. Enfin, il y a encore du vivant. Voilà.
Ce qui n'est pas le cas dans la route.
Là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'humains, mais il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus de vivant. Il n'y a pas de cerf.
T'imagines un monde gris. Moi, dans mon imagination, tout est gris.
Ils mangent quoi?
Ils se mangent entre eux. Et c'est...
Parce qu'il reste des humains. Voilà.
Alors, d'après Télérama, ça fait partie des 25 chefs-d'œuvre de la littérature mondiale qui vont marquer le 21e siècle, ce livre. Et là, il y a une série qui cartonne en ce moment, une série télé que je n'ai pas réussi à suivre, que je n'ai pas trop aimé, mais qui cartonne partout, c'est The Last of Us. Ça, c'est tiré d'un jeu vidéo.
Oui, mais il y a des monstres dans The Last of Us.
Il n'y a pas des zombies là-dedans.
Mais la route a été l'une des sources d'inspiration pour les développeurs du jeu, où le jeu met en scène le voyage d'un homme et d'une enfant à travers les États-Unis, dévastés, la relation qu'ils tissent tout au long de leur périple, qui n'est pas sans rappeler la relation dont tu parlais entre le père et le fils. Alors, ce livre a eu le prix Pulitzer de la fiction en 2007, le prix Ignotus en 2008, et a été porté au cinéma, alors ça, je ne savais pas, par John Hillcoat en 2009.
Oui, avec...
Will Smith?
Non.
Non, pas du tout. J'ai dit au pif.
John Wayne?
Non, en 2008.
Captain Fantastic.
OK.
Ouais, voilà.
Voilà, Captain Fantastic. OK, John McCarthy, qui est né en 1933 et qui est mort le 13 juin 2023 à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Voilà, qui est décédé. Okay. 10 romans, dont une trilogie, et qui travaillait occasionnellement comme scénariste pour le cinéma et la télévision. Voilà, on va terminer cette émission avec notre adolescente Élodie qui va nous parler de la série
Éternellement.
Gone de Michael Grant, une série de romans pour adolescents, écrit donc par Michael Grant, le titre de la série Gone qui signifie « partie », faisant référence aux adultes qui ont quitté la zone, le dôme dans lequel les enfants sont coincés.
Oui, et que j'ai lu en tant qu'adulte. Et que j'ai quand même drôlement apprécié, que j'ai fait lire à mon adolescent de 16 ans et qui a adoré également. Donc j'ai envie de dire plusieurs âges de lecture en fonction de... Voilà, on n'est pas obligé de le lire en étant ado, quoi.
Ah oui, que je viens de lire en tant qu'adulte et que...
Et franchement, il est très prenant, il y a des rebondissements.
Je voulais lui faire la surprise, mais visiblement...
Voilà, alors je vais essayer de ne pas spoiler du coup, maintenant que sais qu'elle est en train de le lire, puisqu'elle en est au tome 1.
Non, on spoil pas.
Voilà, elle en est au tome 1, il y a 6 tomes en tout, qui ont été écrits entre 2008 et 2013. Donc Michael Grant, qui est un auteur américain et qui est spécialisé un petit peu dans tous les bouquins, donc des récits un peu dystopiques, qui mêlent à la fois de la science-fiction, il y a un peu de fantastique... Et surtout des réflexions sur la survie, sur comment on se réorganise, sur le pouvoir, un peu de moralité. Donc c'est l'histoire Je vais essayer de camper sans spoiler. C'est l'histoire.
Ah oui, on veut pas savoir. Hein,
non, alors, moi, ça m'a fait penser un peu à la série, pour ceux qui l'auraient vu, qui est sortie en 2015, de Under the Dome.
Eh bien, de Stephen King.
Voilà.
Donc voilà.
Et un peu un mélange un peu avec Stranger Things.
Ah, moi, j'allais dire Dôme rencontre Sa Majesté des Mouches, rencontre...
Aussi,
oui. Alors, enfants sont
seuls.
Ouais, c'est ça. Donc, je vous campe un peu le synopsis. On y va. Donc, on est dans une... Du jour au lendemain, on est dans une petite ville californienne qui s'appelle Perdido Beach. Tous les adultes et les adolescents de moins de 15 ans vont disparaître mystérieusement. Les enfants sont laissés seuls dans une zone qui est délimitée donc, par un dôme invisible qu'on appelle la zone. Et ils n'ont pas de moyen de sortir, ils n'ont aucun moyen non plus de communiquer avec l'extérieur. Et très vite, les enfants vont devoir se réorganiser. Et ils vont découvrir que certains d'entre eux ont des pouvoirs un peu surnaturels. Il y a des pouvoirs plus ou moins intéressants. Il y en a qui vont avoir la guérison, la télékinésie, le contrôle du feu. Enfin, voilà. Et plus on avance dans les tomes, plus on rentre dans du fantastique. Et la zone, voilà, elle est un peu peuplée de créatures un peu monstrueuses. A priori, il y aurait eu une sorte d'accident un peu nucléaire qui aurait initié un peu cet épisode. Ce qui est génial, moi, ce que j'ai adoré surtout dans le premier tome, c'est comment survivre sans adultes. C'est-à-dire qu'on a tous ces gamins qui prennent le pouvoir, les plus forts, les plus faibles, ceux qui développent des super pouvoirs. J'ai adoré ce passage. Alors, j'espère que t'en es au moins là où les gamins se ruent dans les supermarchés, dans les McDo, pour manger les bonbons, tout ce qu'ils n'ont pas le droit de manger d'habitude, et se rendent compte au bout de 15 jours, 3 semaines qu'en fait, il y avait des fruits et des légumes et que tout a périmé, tout est moisi, et que du coup, ils ont
Allez, nul.
Voilà, et donc, va s'installer la fin. Voilà, s'installe la fin, s'installe tout ça. Donc, on va avoir plusieurs personnages clés qui vont interagir les uns avec les autres. Certains qui vont être plus responsables que d'autres. Certains qui vont être plus sadiques que d'autres. Il faut avoir vraiment l'estomac super accroché parce qu'il y a quand même eu un taux de mortalité infantile assez élevé. Quand on dit les enfants de moins de 15 ans, il y a aussi des bébés. Parce qu'il y a une crèche. Donc, ils se réorganisent avec les plus jeunes, enfin, les un peu plus grands qui vont garder les petits. Enfin, voilà, les super pouvoirs, les vengeances. C'est assez... Enfin, c'est génial. C'est franchement, il n'y a pas de moment où on est... Il n'y a pas de temps mort, en fait. On a des rebondissements et tous les rebondissements, ils sont super brutaux. Oui. Ils sont assez violents. Il y a des morts soudaines, il y a des trahisons. Des dilemmes moraux qui sont, constants, en fait. Il n'y a pas un moment donné où le héros, il se dit « Ah, je suis un peu peinard, c'est bon, j'ai le super pouvoir du moment, ça va me servir à ça. Mm-hmm. » Non, à aucun moment, ils sont sereins, les gosses. Donc, on est tout le temps avec eux, on leur dit « Mais non, fais comme ça, mais non, mais... » Enfin, voilà, on est vraiment en tension permanente. On sait qu'il va y avoir des survivants, on ne sait pas lesquels. Mmh. On sait qu'ils vont s'entretuer, on ne sait pas avec qui, avec quoi. On ne sait pas ce que ça va donner à la fin au sixième tome. Mais il y a des rebondissements tout le long, donc t'es tranquille. Et pareil, il n'y a pas de happy end. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même s'il y a des survivants...
On a dit qu'on disait pas la fin.
Non, je dis pas la fin, non.
Dis quand même qu'il n'y a pas de
happy end. Alors, le sixième tome dit qu'il survit et qu'il ne survit pas. Et il n'y a pas quand même... Enfin, on sait que même, il n'y a pas de gagnant. C'est-à-dire que même ceux qui vont survivre seront traumatisés à vie.
Je le sais déjà. À la fin du premier des tomes, je peux imaginer que les survivants vont être traumatisés.
On sait qu'il y aura des pouvoirs qui vont rester, qui vont disparaître. Et on a ce coup de la survie permanent de... les enfants, ceux qui vont survivre, ils auront dû tuer, ils auront dû mentir, ils auront dû, pour rester en vie. La libération à la fin signifiera pas la fin de la souffrance.
Okay.
Donc, c'est vraiment, je conseille cette série, il faut aimer, c'est un peu, il y a 6 tomes. Hein.
Et puis, c'est très ado.
Mais c'est ado, parce que forcément, les protagonistes ont entre, ceux qui parlent, ils ont entre 13 et 16 ans.
Quel âge
les autres
ado,
subissent.
Ouais. Quel âge pour lire?
Mon fils l'a lu à 16 ans. Franchement, il est accroché, donc je dirais 16 ans. Ouais,
16 ans,
bien.
Pas plus jeune.
Alors, t'as pas lu les autres tomes? Alors, il y a des moments qui sont quand même particulièrement gore. Hein. Tu vas voir, en termes de moralité, en termes de violence, le cinquième tome est particulièrement hard. Je me suis dit, tu le lis pas à 14 ans quand même. D'accord. Enfin, je dirais que 16 ans.
Est-ce que c'est un rapport... Alors, j'ai vu qu'il avait écrit 6 tomes de Gone et 3 de Monster. Est-ce que Monster a lien avec Gone ou pas du tout? Tu ne sais pas.
Alors, j'ai pas lu Monster. Et à la fin des 6 tomes de Gone, il y a une vraie fin. C'est-à-dire que d'accord. ça finit vraiment. Mm-hmm. Donc peut-être qu'on est sur du préquel.
Ouais, voilà, ça. Ouais.
On est peut-être sur quelque chose de parallèle. Donc j'ai pas lu Monster, mais en tout cas, il y a une vraie fin et on finit une série. On sait ce qui, voilà, on sait. Ça boucle. Voilà, tout
déjà,
est bouclé,
tu t'es lancé dans 6 tomes. Alors t'es bien content que ça.
Ah mais je les ai dévorés. Et pour tout vous avouer, j'ai commencé par le tome 3 parce que j'étais en randonnée à La Réunion. Je suis tombée dans un gîte sur ce livre-là, voilà. Et quand j'ai lu ce truc, j'ai lu les deux premiers chapitres. J'ai dit, mais je veux absolument. Donc je me suis trimballée dans mon sac de rando pendant des heures et des jours et je me suis dit mais je vais m'acheter j'ai acheté les deux premiers tomes en me disant je veux savoir ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après.
Est-ce que tu marchais à 6 km/h?
Alors je pense que je vais même être à 3 km/h vu le poids du sac à dos et
ça marche pas. 3
t'as rajouté quoi, 300-400 pages
là dedans. Je pense que j'ai pris un paquet d'avertissements tout au long de cette rando,
c'est ça. Merci Elodie, merci Pauline, merci Valérie, c'était la dernière émission de l'année 2026 et on se retrouvera qu'en 25. Février parce que...
Il nous restera les enfants
pardon.
Il nous
et
restera,
oui, c'est la dernière de 2025 et il nous restera... On revient en février parce que la prochaine émission, c'est les enfants qui piratent la radio, vous le savez, en janvier, comme toujours. Et donc, on se retrouve d'ici à 2 mois. Allez, un peu de vacances.
Vive-moi la Saint-Valentin.
Ça va être chouette.
Voilà, t'as trouvé le thème.
Allez, à bientôt et comme dirait l'autre...
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, il y en a plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait, oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.